Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Alors nous revoilà, les vieux fourneaux, et on va se tourner vers cette grande manifestation qui a eu lieu le mardi 19 mars pour la défense des services publics et donc qui était organisée par l'intersyndicale Fonction publique. Et nous allons commencer par la santé et notamment la santé mentale en écoutant Denis Grabot qui est donc de Sud Santé Sociaux à Charles Perrins.
Denis, je suis le secrétaire de la section Sud Santé Sociaux à Charles Perrins.
Alors la psychiatrie, elle est aujourd'hui en déshérence.
Oui, ben c'est la conséquence de décennies de politiques de restriction ou du moins de non-adaptation des moyens aux besoins et puis aussi des personnes qui étaient prises en charge dans d'autres endroits qui convergent vers les urgences de l'hôpital psychiatrique, voilà, qui sont saturées et surtout qui n'ont pas de lit d'aval. Donc les gens arrivent au CECOP et après avec l'impossibilité d'être pris en charge, pris en soin convenablement dans les unités d'aval. On avait le principe des lits supplémentaires, des lits pliants que l'on dépliait. Bon, tous les lits supplémentaires sont occupés. Ensuite, on a la solution des chambres de contention, les chambres qui sont réservées lorsqu'il y a des agitations, eh bien, on utilise ces lits. Et puis maintenant, eh bien, on utilise les lits laissés libres par les sorties week-end. Voilà, les patients qui sont là depuis quelques semaines, qui sortent le week-end, mais pendant qu'ils sont en week-end, on met un autre patient dans leur lit parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour accueillir les personnes convenablement.
Donc il y a toutes les raisons de faire grève aujourd'hui. Aujourd'hui, 19 mars, c'est une grève de la fonction publique et le gouvernement a annoncé faire 10 milliards d'économies sur le budget. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, ben ça, le décrochage des salaires des fonctionnaires par rapport au coût de la vie et par rapport aussi au salaire du privé, c'est quelque chose dont on assiste depuis des années et des années. Donc là, maintenant, les agents ont le choix d'aller travailler ailleurs. Donc voilà, on se heurte à ce qu'on appelle l'attractivité, c'est-à-dire la fuite des agents du public vers le privé, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien avoir un logement, il faut bien payer le carburant pour la voiture, et que les salaires de la fonction publique ne le permettent plus. C'est une catastrophe au long cours. Le décrochage des salaires qui crée des travailleurs finalement misérables, même pour des professions comme infirmières, aides-soignantes et psychologues. Voilà, les psychologues sont payés maintenant moins qu'une infirmière alors qu'on en a de plus en plus besoin.
Merci beaucoup, Denis.
Sud Santé Sociaux.
Alors maintenant, on va écouter Kay McGregor et donc on va parler de la misère dans l'éducation nationale. Alors bonjour Kay, enseignant dans le second degré, syndicaliste au SNES-FSU et aujourd'hui dans la rue et en grève pour la défense des services publics.
Absolument. Aujourd'hui on se bat parce qu'on n'est pas content. On nous dit tout le temps qu'il faut économiser pour on ne sait pas quelle raison, mais on économise surtout sur le dos des gens et surtout les plus fragiles, donc les enfants, les gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Voilà, les gens qui ont besoin des services sociaux, etc. La liste est beaucoup trop longue pour que je liste tout. Mais vraiment, ça se précise en fait, parce que ces histoires de capital, ben, c'est surtout pour enrichir les Bernard Arnault et consorts. Et nous, on n'a pas du tout envie de faire ça, ni de préparer des gens à le faire.
Alors Bruno Le Maire, c'est Monsieur Thatcher finalement. 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'année prochaine. Et c'est toujours les mêmes qui vont se serrer la ceinture.
Absolument. Et même, j'irai plus loin, c'est pas seulement toujours les mêmes, c'est de plus en plus de gens. Parce qu'au final, on est souvent nombreux à oublier que plus de la moitié des gens de ce pays touchent vraiment très peu d'argent par mois pour pouvoir se débrouiller. Donc à peine le SMIC, voire moins. Et ça, c'est terrible. Et avec des économies comme ça, ben, ça ne sort pas de nulle part, jamais. Ça provient de la vie des gens, de leur travail, de leur fierté d'aller faire quelque chose de bien tous les jours, de se lever pour quelque chose. Et ça, on veut nous l'enlever. Ben, nous, non, on a besoin d'être fiers, on a besoin d'être joyeux. Et c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui dans la lutte et dans la rue.
La réforme qui va toucher les collèges, les lycées, les écoles, elle va encore aggraver, je pense, la prise en charge des élèves en difficulté.
Ben, tout à fait. Ce qui est annoncé très clairement, malgré les démentis rapides, mais pas très étayés des gens du pouvoir, c'est un tri social qui s'organise. Et on le voit depuis longtemps déjà, et c'est quelque chose qui me questionne toujours moi en tant que prof à l'école, parce que j'ai toujours un petit peu peur et j'ai envie de réfléchir à comment je participe à cette école du tri social qui était déjà a déjà pris un mauvais virage depuis quelques dizaines d'années. Mais là, c'est une aggravation massive. Et j'ai envie de dire décomplexé, parce que ça me rappelle aussi ce qui se passait à la fin des années 90 en politique. Et là, c'est la même chose en termes d'annonces gouvernementales sur ce qui doit se faire dans les écoles et ce auquel on voudrait qu'on participe, mais c'est non.
Il y a beaucoup d'enseignants qui ont l'impression qu'on le dépossède de leur métier et qu'on leur enlève toute capacité à avoir une liberté pédagogique. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je crois que une composante essentielle de notre vocation en tant qu'éducateur, qu'enseignant, c'est une vraie volonté d'aider des jeunes à progresser et à trouver leur motivation, leurs moyens, leur force intérieure. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois ce métier. Ils m'apportent aussi beaucoup, les jeunes, en fait. Ils m'apprennent des choses tous les jours. Ça va dans les deux sens. Et en fait, si on m'oblige à les trier et à les accueillir dans des mauvaises conditions, ben, du coup, mon métier perd son sens. Et c'est très compliqué, à partir de là, de savoir quoi faire. Est-ce que je change de métier ? À 51 ans, ça paraît compliqué. Est-ce que je me bats pour que le faire avec des valeurs auxquelles j'adhère, ben, c'est ça qui se trouve comme une évidence pour moi.
Alors il y a tout un plan d'action pour cette semaine et je crois que même samedi, il y a un débat qui est organisé avec les parents d'élèves.
Oui, absolument, à l'Athénée municipale.
Et ce débat, il porte sur la casse de l'école, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu crois que les parents d'élèves aujourd'hui se rendent compte de la misère dans laquelle se retrouve l'enseignement public ?
Je pense pas. Je pense que s'ils se rendaient compte, on n'en serait pas là. Parce qu'ils seraient soit dans la rue à manifester avec nous, ce que je les appelle à faire, parce que vraiment, il s'agit de leurs enfants et des nôtres, donc ça c'est ultra important et il faut du nombre pour arriver à faire entendre à la société que on n'est pas juste en train de défendre notre fin de mois, même si ça fait partie aussi du grand tout, mais je pense que souvent les gens ont l'impression que en tant qu'enseignant, bon, les profs dans la rue, on est en train de, comment dire, de défendre des privilèges. Et finalement, c'est pas ça. C'est un service public pour tous, à égalité, démocratique. Et ça, c'est une vraie vision de société qu'on oppose à celle qui est en train de nous être imposée. C'est celle qui est en train de nous imposer avec force et à coups de bâton, y compris à coups de bâton. C'est le tri social et une réalité totalement différente selon ses moyens. Et d'ailleurs, on nous parle souvent de mérite, mais il ne s'agit pas de ça, puisque la plupart des gens qui ont les revenus les plus importants et qui sont en train de croître de façon vertigineuse en ce moment, ils sont nés là-dedans. Ils n'ont même pas eu à lever le petit doigt pour le faire. Et que font les millionnaires chaque jour? Ils bossent dur? Moi, j'en sais rien. Hein. Je ne les applaudis pas parce qu'ils sont millionnaires. Et donc, comment on peut juger de ça et puis parler des gens qui travaillent tous les jours et qui essayent de faire de leur mieux? Je crois qu'on n'est pas sur un pied d'égalité. Donc, il faut vraiment que les gens, et en premier les parents d'élèves, comprennent ce à quoi on est confronté. Parce que nous, on nous demande de mettre en place des choses qui sont délétères pour la société et pour l'égalité des chances, et contrairement au discours annoncé. Donc, il faut bien comprendre qu'un groupe de niveau, c'est du tri social, et c'est fait avec, sans les moyens nécessaires, même pour le faire fonctionner, si ça fonctionnait, ce que je ne crois pas non plus.
Merci beaucoup, Kay, pour cette parole précieuse.
Avec plaisir.
Alors, on a vu un peu ce qui s'est passé cette semaine, toute la semaine dernière, la lutte continue bien sûr. Et je voulais rajouter une information, puisque le 22 mars, il y a eu à Paris une grande manifestation nationale avec tous les assistants sociaux des trois services de l'éducation nationale, parce que le sort des élèves en difficulté, il est lié aussi à l'absence de prise en charge. Lorsqu'on détruit le service public, on enlève les personnels dédiés à suivre les élèves en difficulté, les élèves qui ont des problèmes familiaux, sociaux, et qui aujourd'hui se retrouvent sans réponse. Alors maintenant, on va retourner du côté de la casse de l'école publique avec un rassemblement qui a eu lieu au Lion Bleu jeudi dernier, et nous avons tendu notre micro à Charlotte. Bonjour Charlotte, donc tu es au Collège Mandela et aujourd'hui on est au Lion Bleu parce qu'il y a Collège Mort à cause de la réforme, le choc des savoirs. Comment ça concerne ton établissement Nelson Mandela ?
Alors en fait, effectivement, on est 9 collèges dans toute la Gironde à être en collège mort aujourd'hui, avec beaucoup de collègues en grève, parce que concrètement, dès l'année prochaine, à partir de la 6e, et pour les élèves de 5e, on nous demande de trier nos élèves en français et en mathématiques, dans des groupes, alors qu'on les appelle de besoin, de niveau. Au final, l'idée qui est derrière, c'est la même. Donc c'est d'assigner, à partir de l'âge de 11 ans, à des gamins qui sont encore en construction, c'est de leur assigner déjà une étiquette. Voilà, l'étiquette du faible, l'étiquette du moyen, l'étiquette du fort. Et ça, on est absolument opposé à ce tri dès l'année prochaine.
Alors ça veut dire qu'en fait, les élèves qui seront dans le groupe des nuls, eh ben, ils seront peut-être destinés à quitter le système scolaire assez rapidement ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit que les élèves pourront facilement passer d'un groupe à l'autre. Alors, en réalité, ça, c'est vraiment une vision complètement déconnectée de la réalité des établissements scolaires. Ça va être très difficile pour des élèves qui sont dès le début placés dans le groupe faible de pouvoir ensuite changer de groupe, ne serait-ce que pour des raisons très simples d'effectifs. C'est-à-dire que si le groupe moyen, il est en éducation prioritaire à 25, il faudra faire descendre ou monter quelqu'un du groupe moyen pour laisser une place. Enfin bon, dans les faits, ça nous paraît complètement irréalisable. Et effectivement, ce qui se profile derrière tout ça, c'est des gamins qui, de la 6e à la 3e, seront dans ce groupe, entre guillemets, faible, et qui auront peut-être difficilement leur brevet. Et ce qui est aussi, alors ce dont on parle un peu moins, c'est que le brevet risque de devenir... le brevet va devenir, a priori, obligatoire pour aller en lycée, y compris... en lycée professionnel. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des gamins qui n'ont pas leur brevet à la fin de la 3e. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est le but, c'est de faire de l'apprentissage, de les mettre au boulot à 16 ans et de ne pas leur permettre de poursuivre des études. Et ça, on est très inquiets par rapport à ça.
Alors, c'est vraiment une loi très réactionnaire puisqu'elle revient, elle revient en arrière avant les années 90 où il y avait une possibilité d'accéder aux trois formes de baccalauréat pour toute une classe d'âge. C'est donc un programme qui est très, très à droite, qui est en train de se mettre en place.
Oui, en fait, on sent bien que derrière, il y a une vision très idéologique de ce que doit être l'école. Hein, c'est-à-dire que c'est une école qui considère pas que tous les élèves sont capables de réussir. Et c'est ça qui nous dérange. C'est une école qui considère qu'il faut, dès la sixième, trier ceux qui vont poursuivre leurs études et qui ne doivent pas être freinés par ceux qui sont considérés comme trop faibles. Et c'est écrit clairement hein, dans les textes qui ont été publiés lundi. C'est écrit clairement cette idée qu'il faut laisser ceux qui seraient excellents s'envoler de leurs propres ailes, détachés de ceux qui freineraient leur réussite. Et évidemment qu'en tant qu'enseignant, on ne peut être qu'opposé à cette vision de l'école. Et alors, ceux qui sont en collège mort aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves d'éducation prioritaire. Et ce n'est pas anodin. Parce qu'on sait que nous, nos élèves, ils cumulent difficultés scolaires et difficultés sociales. Et donc on sait que ceux qui vont être relégués dans ces groupes faibles, ce sont aussi des élèves qui sont en difficulté sociale. Et c'est extrêmement grave et dangereux de dire à ces gamins-là, ben vous voyez, vous êtes dans ce groupe des faibles et puis vous allez y rester. Et ça sera très difficile pour vous d'en sortir. Nous, dans notre établissement, au Collège Mandela à Foirac, on a 30% de gamins qui n'ont pas le brevet à la fin de l'année. Et puis, sur ces 30%, en fait, il y en a beaucoup qui vont en seconde professionnelle. Et en seconde professionnelle, souvent, il y a un déclic qui s'opère. Et ils reviennent nous voir et ils nous disent, ben, ouais, finalement, après, en lycée pro, on a trouvé notre voie et on a pu continuer. Là, avec ce qui est envisagé, voilà, ces élèves qui n'ont pas le brevet ne pourront même pas aller en seconde professionnelle. Donc, pour nous, c'est vraiment une vision de la société qui n'est absolument pas la nôtre.
Très sociale, très scolaire, une des mesures extrêmement réactionnaires et en même temps aussi un appauvrissement du service public. J'ai vu qu'il y avait une heure de moins d'enseignement en collège.
Oui, là encore, c'est une grande hypocrisie. Hein. Gabriel Attal nous vante l'école comme étant la priorité nationale. Et effectivement, en sixième, les élèves passent de 26 heures d'enseignement à 25 heures d'enseignement. Alors ça, évidemment, ça passe entre les mailles du filet. On en parle très peu. La raison, c'est très simple, c'est-à-dire économiser des postes. Hein. Économiser des postes, c'est-à-dire que toute cette mise en place du tri, elle s'accompagne en plus d'une volonté de faire des économies et de supprimer des postes. Et la conjonction des deux, le tri plus moins en moins de moyens pour l'école, ça va être dévastateur pour nos établissements scolaires et ça va être dévastateur pour les classes populaires.
Alors Mandela, non à l'apartheid, hein, c'est ce qui est écrit sur vos panneaux. Et je trouve que c'est un extrêmement bon mot d'ordre.
Alors les élèves ce matin, on avait décoré effectivement l'entrée du collège et des élèves ce matin nous demandaient « Mais madame, c'est quoi l'apartheid ?» Et on leur explique que c'est le fait de trier les gens selon certains critères. Et quand on leur explique que l'année prochaine, ils devront être triés dans des groupes de niveau, ils nous disent « Mais madame, c'est de la discrimination, madame !» Et le mot vient de même, c'est de la discrimination. Et quand on leur en parle, même ceux qu'on mettrait dans les groupes des bons élèves, même les bons élèves disent « Mais madame, nous, on aime bien aider les autres, on aime bien coopérer, on aime bien ne pas être tous identiques. » Et nos élèves n'ont pas envie, en fait, d'être mis dans ces étiquettes, dans ces cases. En plus, on nous parle de la lutte contre le harcèlement qui serait une priorité dans les écoles. Mais quoi de plus stigmatisant pour des gamins que de dire bah, « toi, t'es dans ce groupe-là, toi, t'es dans ce groupe-là ». Il ne faut pas se leurrer, les gamins, ils sont lucides, ils savent très bien. Ils sauront très bien dans quel groupe ils sont et pour quelles raisons ils y sont. Donc là encore, ça va. On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes qui n'est pas au beau fixe. Non. Ça va accentuer le mal-être, l'angoisse. On a des gamins, on parlait d'une maman ce matin devant le collège, une maman dont l'enfant en sixième est très angoissé, manque de confiance en lui. Alors ça va être le stress permanent pour ce gamin, même s'il est dans le groupe d'effort. La crainte de la relégation, c'est-à-dire « Ah mince, j'ai raté mon évaluation, je vais passer dans le groupe des moyens, c'est horrible ». Voilà, ça va générer même parmi les bons élèves de l'anxiété en continu avec la menace et la crainte de ces évaluations. Et ça, ce n'est absolument pas acceptable en tant qu'enseignant et en tant que parent.
Merci beaucoup Charlotte, je crois qu'on a bien compris le message et non à l'apartheid scolaire.
Voilà.
Et voici l'agenda militant. Et je voulais commencer par la date d'aujourd'hui. On est le 25 mars 2024 et c'est l'anniversaire des 1 an de la grande manifestation qui avait lieu à Sainte-Soline. Et je vous recommande un article dans Libération d'aujourd'hui. Donc l'interview d'Alix, 20 ans, qui a été vraiment très grièvement blessée par une grenade à ce moment-là. Et elle dit cette phrase, « Les gendarmes ont brisé mes os, mais pas mes convictions ». Et donc cette répression féroce qui s'est abattue avec des blessés hyper graves et tout, n'a pas empêché donc tous ces militants écologistes de continuer la lutte et de poursuivre le combat. Et évidemment, on pense à eux aujourd'hui, on pense beaucoup à eux parce que c'était quand même un moment terrible pour un certain nombre de manifestants. Ça a été vraiment un carnage et il faut le dire, il y a encore des gens qui ont d'énormes séquelles de cette répression policière sur Sainte-Soline. Alors, l'agenda militant, eh bien, nous allons commencer par parler de la décolonisation à Bordeaux, puisque le mercredi 10 avril, donc Bordeaux Colonial, l'association, propose une réunion, un débat à la Halle des Douves, le mercredi 10 avril à 18h. Je rappelle également que le 6 avril, il y a la manifestation en soutien à Georges Ibrahim Abdallah qui va se passer le 6 avril à Lannemezan. Et maintenant, je passe la parole à Sandra.
Oui, rebonjour. Vous êtes toujours sur la clé des ondes 90.10. Et moi, je vous parle du 13 avril avec les Fauchés Solidaires, qui est un collectif qui s'est mis en place pour défendre les personnes au chômage et les personnes précaires qui sont très, très violemment attaquées, comme vous le savez, notamment avec les 15 heures de travail gratuit obligatoire. On n'avait pas vu ça depuis 45. Et l'attaque que l'ASS, que le Premier ministre souhaite... supprimer la SS, qui est l'allocation de base quand on n'a plus droit aux ACDIC, c'est quand même très très grave. Et donc il y aura une soirée le 13 avril au Café des Douves, hein, toujours rue des Douves à Bordeaux, une rencontre débat autour des femmes et de l'autonomie, donc ce sera à 18h.
Alors je crois que ce collectif qui se monte des Fauchés Solidaires s'adresse à des individus, bien sûr, à des chômeurs, à des précaires, mais aussi à des militants syndicalistes et à des associations qui s'occupent justement des gens qui vivent au quotidien et qui sont 9 millions en France dans la précarité et dans la pauvreté.
Effectivement. Donc d'ailleurs, il faudra qu'on annonce nos prochaines réunions sur Démosphère Gironde. Démosphère, hein, comme démo et sphère. En un seul mot, on annoncera nos réunions parce que tout le monde peut y participer, juste pour venir parler aussi des situations qu'on peut vivre, qui peuvent être très très maltraitantes et violentes. Hein. Les personnes au chômage ne sont vraiment pas bien traitées, il faut le savoir, que ce soit par Pôle emploi ou les MDSI ou les CCAS. Donc vous pouvez venir dans ces réunions et on est là aussi pour soutenir les personnes qui vivent qui vivent des problèmes avec leur accès aux droits, hein, parce que c'est ça. Et on est là aussi pour se soutenir. S'il y a un problème, aller vers les administrations, accompagner les personnes qui sont en difficulté.
Alors, je voulais aussi parler de l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde, puisque le 30 mars, il faut aller à Blaye, au pied du château des Rudelles. Là, il y a donc les organisations qui soutiennent cette lutte contre les pesticides de synthèse et pour une agriculture paysanne respectueuse de l'environnement. Ils organisent tout simplement un banquet, n'est-ce pas, pour en finir avec ces pesticides de synthèse. Et donc, il y a une grande action dans toute la France, 1000 banquets populaires, et qui va se passer. Donc, on vous donne tous rendez-vous à partir de 11h30 à Blaye. Et donc, rendez-vous au pied du château des Rudelles. Pique-nique tiré du sac, apéritif offert. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on peut quand même manifester dans la convivialité. En espérant qu'il y ait du vin sans pesticides, évidemment. Et donc, voilà, ça c'est un rendez-vous très important et qui est, et voilà, avec beaucoup de participants, invité par et soutenu dans cette lutte contre les pesticides. Il y a notamment Génération Future, il y a la Confédération Paysanne, le Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole et évidemment à la citadelle de Blaye, qui est un très bel endroit. C'est l'occasion de remettre le débat en place sur cette question, puisque la Gironde est un des départements les plus pollués par les pesticides, en lien avec, évidemment, la culture de la vigne. On va peut-être passer de la musique.
Alors, attends, j'ai une petite date, moi, parce que c'est vrai que j'oublie toujours mes propres dates. Alors, quand même, j'en donne une petite qui concerne l'Université populaire de Bordeaux, UPB. Donc, le 4 avril à 19h, à la Fac de la Victoire, nous avons une chaire. Une chaire, c'est une intervention, une personne qui intervient sur un sujet, et qui n'est pas forcément un prof, d'ailleurs. Hein. Ça peut être toi ou moi. Une personne qui a des connaissances sur un sujet. Et là, ce sera sur la société utopique. Comment la mettre en place? Donc, ça va faire du bien. Et une autre petite date, le dimanche 7, nous avons une réunion aux arbres citoyens, également, à 15h30. Alors par contre, je ne sais plus à quel endroit, mais allez sur Démosphère Gironde, vous trouvez aussi toutes ces dates de réunion. Il y en a plein sur ce site.
Avant, j'étais maman proximale, j'achetais que des couches lavables, je portais mes enfants sur le dos et je participais aux fêtes de l'école. Depuis que j'écoute Spy Market, tout va bien mieux. Je me drogue au LSD, je m'offre à n'importe qui. Je suis sataniste et j'en ai rien à foutre.
Depuis que je n'écoute plus Spy Market, c'est étrange, j'ai perdu mes cheveux, les enfants me jettent des cailloux. Je vote pour Pompidou, alors que ce dernier est décédé. Les chiens hurlent la mort sur mon passage.
Bonsoir, je tiens à dire que, depuis que j'écoute Spy Market, ma vie n'est plus la même. J'ai repris une sexualité hyperactive. Tout me réussit. J'ai reçu un chèque inespéré. Je n'ai plus peur des orithérodes d'Abyssinie et même, si je suis toujours chauve, je m'en fous. Merci Spy Market.
Alors, n'oubliez pas, Spy Market, tous les dimanches de 19h30 à 21h, sur le 90.10, la clé des ondes.
ก็คลุกคละเหมือนทะเล